Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonna Bolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient un réflexe. Cette semaine, on rediffuse « À la paillade », une série de Stéphane Bonnefoy réalisée par Christine Digère pour Sur les Docs. Au départ de cette série, il y a un quartier qui a éclos au milieu de la Garrigue dans les années 60. Il y a des familles qui sont arrivées d'Algérie et du Maroc, pieds noirs ou pas. Il y a le passé colonial et le passé décolonial. Il y a des tours gigantesques, des dalles et des bars. Il y a 25 000 habitants et comme une ville hors de la ville, mais une ville conçue par des fous. Il y a aussi désormais des tours rasées, des projets de maisons individuelles, des barres plus basses, de grands mots, de grandes résolutions, de bonnes intentions et le refrain du vivre ensemble. Mais tout ça ne suffit pas contre la relégation, l'abandon et la mauvaise réputation. Et puis aussi, il y a une ville très bourgeoise juste à côté qui n'a pas forcément envie de partager avec ceux dont elle se méfie. Alors pour comprendre, il a fallu s'y installer, à la paillade, et partager les jours et les nuits d'un lieu désormais habilement rebaptisé le Mausson. Alors pour commencer, les personnages. Un documentariste qu'on prend pour un indique, un ado viré du collège, des jeunes qui veulent sortir de la cité, un frère en prison, un frère installé, un éducateur, une militante du quartier, une voisine qui s'implique, un futur prof d'histoire et un boxeur entrepreneur. Ensuite le décor, des quartiers abandonnés, des terrains de jeu, la peur du communautarisme, l'État qui s'en va, des tours qui vieillissent, l'insécurité, l'harmonie quand même, des refrains à la radio, l'espoir qui se niche dans les coins et des constructions inhumaines. Aujourd'hui, 4e épisode, au moins il y a de la place pour jouer au ballon.
Sur les docks, à la paillade. Une série documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisée par Christine Digère. Délicat, même après 2 mois de vie commune avec la paillade, de dresser un état des lieux de la conscience politique de ce quartier de 25 000 habitants. Un signe ne trompe pas. Les militants des partis traditionnels ont pour ainsi dire déserté et ne réapparaissent qu'à l'occasion d'une campagne électorale. Car une élection, dit-on ici, se gagne ou se perd à la paillade. Avec eux, ils ont emporté une partie de la vie intellectuelle du quartier. Ces débats improvisés autour d'une distribution de tracts les jours de marché. Cela même qui agitait, il y a quelques années de cela, les quartiers populaires. Durant ces 2 mois, je n'ai vu qu'un seul militant sur le marché de la paillade. Un musulman quêtant pour la construction d'une école primaire privée. Son sac plastique en guise de compte de campagne, il recueillait bien des suffrages. Le tissu associatif traverse lui aussi une profonde mutation. Entre des associations communautaires qui se créent et un réseau issu de l'éducation populaire en perte de vitesse. Une relève tente de se structurer à l'initiative d'habitants du quartier. La plateforme citoyenne de Montpellier, née en 2009 et qui a tenu ses premiers états généraux au mois de novembre, à la paillade même. 4e et dernière émission, en toute conscience.
La première fois que je t'ai vu, je croyais que...
Ahmed.
Tu travailles avec la police. J'ai de la vérité. Hein.
On a cru que t'étais un NJIC.
Mais après, quand je t'ai connu, j'ai vu qu'en fait, tu faisais de la radio et tout ça.
Ouais, j'ai bien eu cette impression. Ouais. Tu t'es un peu méfié de moi, ouais.
Oh, au début. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens bizarres qui viennent nous voir à chaque fois. Maintenant, on se méfie.
Et après, tu te souviens de la discussion qu'on a eue? Tu m'as parlé un peu de ta situation. On a parlé du collège.
Ouais. On avait parlé du collège, on avait parlé du... J'étais renvoyé de là-bas, il m'avait ramené à Alco. Je suis sorti du collège directement, je suis allé avec ce patron, j'ai fini avec le collège.
À quel âge?
16 ans.
À 16 ans, ouais.
Après ce patron, à la fin de l'été, au début de l'année prochaine, il m'a appelé et il m'a dit comme quoi qu'il pouvait pas me prendre, qu'il avait pas plus de 3 ans de métier. Et depuis, je suis à la rue.
T'étais en quelle classe à 16 ans quand t'as quitté le collège?
4e.
En 4e.
Ah ouais.
Mais tu es né en France?
Heureusement.
Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as décroché comme ça?
Ah ouais, mais là-bas tu rencontres tous les collègues du quartier.
Après t'es au quartier quand tu vas au collège. Ouais. C'est vrai.
Il me disait qu'il aurait préféré presque être ailleurs, quoi, être dans un autre collège.
Ah ouais, à fond, je serais dans un autre collège.
Ça serait pas pareil, ouais. Ça serait pas pareil. Pourquoi?
Parce que là, on rencontre tous les collègues du quartier.
Là, on est là et je sais pas comment vous expliquer.
Ça te donnait pas envie de travailler,
c'est voilà.
Pourquoi? Parce que c'est vous influenciez.
Voilà, à cause des influences, voilà. Tout ça.
Et ben les profs ici savent pas s'y faire.
C'est des CEP, c'est des zones d'éducation prioritaire.
Maintenant j'ai fini, je commence lundi dans la boucherie. Et ça y est.
Ouais, il va arrêter de vendre le shit.
Non, jamais. Il commence à dériver.
Non, le souci dans le quartier, c'est qu'il y a beaucoup de produits illicites qui tournent. C'est difficile d'interviewer des jeunes dans un quartier.
Je voudrais juste que tu me reparles de ce qu'on disait par rapport à ta famille et par rapport au contexte de tes frères notamment.
Eh ouais, j'avais deux choix à choisir. J'ai mon frère qui est incarcéré et j'ai mon autre frère, il est bien quoi.
Ouais, son grand frère à lui.
J'ai deux trucs, moi je suis au milieu.
Il est bien, c'est un homme bien, il fait rien.
Et alors
il travaille.
T'es au milieu.
Et alors maintenant ça y est. Maintenant je travaille lundi, je commence à travailler lundi.
Il reprend une situation.
Voilà.
Parce que là tu vivais comment là jusqu'à présent?
Je vivais très bien.
La journée?
La journée, je m'occupe. Voilà.
C'est-à-dire?
C'est toi qui poses les questions.
Ouais, c'est-à-dire?
Voilà.
Tu me dis pas avant 17h, les rendez-vous pas avant 17h. Alors ça veut dire quoi? Que tu fais quoi la nuit?
Parce qu'en fait, j'ai une copine. Ouais. Et je suis amoureux d'elle. Et je reste toute la journée avec elle.
Ouais. Oh, mais c'est tes copines quand on est à côté, là, c'est ça?
Ouais. Non. Mais c'est par exemple là, ça c'est un bon collègue, j'avais pas vu ça fait longtemps.
Là, ouais, non.
Bon, on a fini?
Ça va?
Ouais, ça va,
tranquille. L'avenir est bien.
Ouais, l'avenir est bien.
Toufik, éducateur de rue de la PS34 à La Payade.
Là, j'ai un jeune, par exemple, qui passe au tribunal, il a 17 ans. Enfin, c'est hallucinant parce qu'il est... c'est un garçon... vraiment qui a un bon fond, qui a une personne qui fait bien la différence entre le bien et le mal, il a une conscience, vraiment. Et on sent que du fait qu'il n'ait pas eu cette chance d'être entouré par des adultes au moment opportun, bah, la rue, les mauvais conseils, les copains, l'entourage ont pris la place des valeurs éducatives et au détriment de son avenir. Et donc finalement, c'est dur de le mobiliser, alors que je l'ai vu en 8 mois glisser, basculer. Pendant toute cette période, il disait au secours à l'aide, voilà, je cherche un contrat pro, j'ai des patrons qui m'ont laissé sur le carreau plusieurs fois, j'ai été stigmatisé par l'employeur parce que mon éducateur m'accompagnait dans une démarche vraiment éducative et de suivi. Et là, finalement, l'employeur lui répondait que c'était peut-être un jeune à problème, donc on va peut-être pas travailler ensemble. Et j'ai pu voir aussi l'évolution des jeunes dans des maisons d'enfants à caractère social. Et par la suite, dans un établissement pénitentiaire pour mineurs. Et le public accueilli là-bas, c'est des jeunes entre 13 et 16 ans. Et donc, j'ai pu voir les jeunes de quartier, où est-ce qu'ils finissaient pour certains. Et c'est triste. Je vois effectivement dans les quartiers, notamment le Grand Mail, Saint-Paul ou Oxford, hein, ils ont des problématiques différentes, mais... l'aménagement des quartiers n'est pas à la hauteur de la dignité humaine, quoi. C'est vrai que de voir des tours d'immeubles entasser les gens dedans, et dans les appartements ils sont beaucoup trop nombreux. En bas de chez eux, c'est du ciment, du béton, tout est grillagé. Il y a très 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 peu d'air ou des parcs ou des squares. Enfin, c'est choquant, c'est vraiment choquant. Et moi, franchement, alors ça pourrait être une conclusion, mais je la ferai pas maintenant, mais je vais la dire quand même. Je trouve qu'ils sont vraiment, ils sont beaux malgré tout ça. Voilà.
L'album s'appelle Djima, en arabe ça veut dire éternel en fait.
Morad.
Où elle raconte son départ d'Algérie. En fait, dit qu'elle a pris un vol charter, mais sans retour en fait. Que voilà, elle était partie vers de nouveaux horizons. Quoi. Parce qu'elle dit un peu, je ressens un peu de trucs que moi aussi j'ai vécu, quoi, un peu. Le fait d'avoir quitté son pays, même si moi je suis né ici. Mais bon, chaque année, je retourne un peu quand même à mes racines, quoi. Mes racines sont marocaines et mes fruits sont français. C'est une expression que j'aime bien, que j'aime redire tout le temps, quoi. Et voilà. Des fois, je donne un petit coup de main à mon frère qui travaille à l'épicerie. J'ai eu mon bac ES économique et social l'année dernière. Là, je suis à la fac, en fac d'histoire. Et pourquoi pas être prof d'histoire, parce que c'est vrai que j'adore l'histoire, quoi. Si on ne fait pas d'études, à quoi ça sert de vivre dans le 21e siècle, je veux dire. Ça y est, si on ne fait pas d'études, on tourne au Moyen-Âge, je veux dire. C'est important de se cultiver, d'apprendre, de discuter avec les gens, même si on n'est pas d'accord avec eux, de partager nos points de vue, de regarder si on a des points communs, des différences. Et voilà, étudier, c'est une clé, quoi. Après, il faut ouvrir les portes, même si elles ne sont pas faciles à ouvrir, vu... Moi, je ne vais pas faire un peu le rabat-joie, mais l'adresse, la paillade, notre nom de famille qui ne sont pas très occidentales, c'est vrai que c'est pas évident, mais bon, si on cherche, si on a de la volonté, on trouve. Hein. Il n'y a pas de souci de ne pas trouver et de ne pas réussir. Il faut juste se battre. Nous, on a l'habitude. Hein. Depuis tout petit, on nous le répète et on ne va pas lâcher l'affaire, croyez-moi. Voilà.
C'est des gens vraiment. Alors après, par contre, dans ce pourcentage-là, il y a toujours une partie de gremlins, de gens, de délinquants, de vraiment et qui polluent. Et c'est marrant parce que la mission première de l'État, c'est de protéger. Et là, ils ne protègent pas les jeunes. Ils les laissent livrer à eux-mêmes et à la rue. Et à ces mafieux qui sont vraiment très très petite minorité. Et malheureusement, le temps passe. Et comme il y a beaucoup d'êtres humains, on peut toujours passer au suivant, quoi. Donc c'est pas gênant, il y a de la matière. Alors après, ce qui est dommage, c'est de laisser une problématique prendre une telle ampleur, quoi. On peut pas... J'ai jamais compris que des gens fassent un bac plus 5, bac plus 8 pour faire des quartiers comme ça, quoi. On va chercher des penseurs, des chercheurs, des spécialistes, et pour arriver à mettre des gens, même des gens qui n'ont même pas le CAP vous diront qu'en mettant tant de gens dans un immeuble, on va trouver des problématiques. Et donc après, effectivement... mettre plein de gens qui ont des difficultés communes ou diverses, mais complètes, au même endroit, on ne peut pas avoir que de temps en temps des tournantes, que de temps en temps un communautarisme. Donc là, c'est pareil, il y a des gens et des filles qui ont le foulard, ça doit choquer les gens. Enfin, ça me fait penser un peu au système américain, en fait, qui pollue beaucoup et qui prend 5% de son budget pour lutter contre la pollution. Voilà, donc qui signe aucun accord. Enfin, voilà, là c'est pareil. On pourrait prendre le problème à bras le corps dès la maternelle, dès le primaire, en favorisant, stimulant, sensibilisant, donnant envie aux gens.
Mais malgré tout, ça se passe quand même pas trop mal encore.
Malgré tout, et c'est pour ça que moi, c'est avec cette joie de vivre, cette envie que je viens au boulot le matin, et mes collègues aussi, on est nombreux à venir avec cette joie de vivre et cette envie de dire aux jeunes, croyez en la vie, même s'il y a une personne qui vous sourit, ou alors on essaie avec eux de décoder le système aujourd'hui, dans lequel les gens qui l'ont construit, les gens qui l'ont pensé, ne le comprennent même pas eux-mêmes. Parce qu'on est en train aussi d'user aussi le corps enseignant, on est en train d'user un peu tous les corps de métier, quoi. Et pourtant, une mobilisation, une grosse mobilisation, mais je crois que face à la tâche qui nous attend les uns les autres, je pense qu'il devrait avoir une réelle bousculade de la part des politiques, parce que c'est eux qui financent, c'est eux qui valident, voilà, ouais. Tout simplement.
Parce qu'on a le sentiment qu'effectivement, ceux qui donnent beaucoup, les acteurs de terrain, ressentent une certaine usure avec les années. Hein. C'est usant ici, ce quartier.
Franchement, quand on fait son boulot avec son cœur et ses tripes, quand on rentre chez soi le soir, on... Là, pour le coup, on aimerait être analphabète.
L'avenir, vous le voyez comment?
Je le vois pas très bien.
Evelyne Menou,
directrice de l'IPEC Peuple et Culture de la Paillade.
Sincèrement, je ne le vois pas très bien. D'abord parce qu'il y a une usure, effectivement, des associations qui sont là depuis très longtemps. Même moi, par exemple, je pars 7 mois, parce que je crois que je suis très fatiguée professionnellement. Qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer, nous, en restant ici et sur un système qui perdure et qui ne correspond plus du tout à l'association? Donc ça, ouais, c'est vraiment ma réflexion. Je crois qu'il y a... ils ne veulent pas voir. Je crois que vraiment, c'est... Et je le vois très très mal, parce que réellement, c'est un quartier qui est vraiment de plus en plus replié. On le voit bien, il suffit de se promener. Alors qu'il y a une grande richesse, il y a des gens de qualité. Vraiment, c'est pas un quartier qui est complètement dévasté. Il y a des quartiers beaucoup plus difficiles. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le quartier. Donc je dirige une des plus anciennes associations. Et c'était assez simple. C'était un volontariat de l'association de venir ici. Des personnes en difficulté, des dispositifs, une envie de travailler dans l'éducation populaire. Maintenant, c'est des choses qui nous échappent au niveau des politiques publiques, où vraiment il y a une complexité énorme et vraiment une distance, effectivement, entre notre projet d'éducation populaire et l'application de ces politiques publiques. Des habitants qui se sont repliés complètement en termes d'identité, une très grande pauvreté, je crois. Il y a eu une période faste où il y a eu de la réhabilitation, il y a eu vraiment une volonté, il y a eu énormément d'associations impliquées. Et là, il y a un repli des associations, effectivement, et un repli des habitants. Donc je ne dirais pas que je ne le comprends pas, je dirais que c'est de plus en plus complexe et de plus en plus difficile de travailler sereinement de ce quartier-là. Là où je suis inquiète, c'est qu'on a cru à un moment que la mixité du public, elle était faite. Et on s'aperçoit au bout de... ça fait 5 ans, 5-6 ans, effectivement, que c'est plus du tout le cas. Les personnes âgées disparaissent, hein, ça c'est la vie. Et du coup, sont remplacées par des personnes qui sont en grande précarité, familles nombreuses, quelle que soit l'origine. Hein, et du coup, on arrive à un quartier ghetto, avec des communautés très très fortes, une très grande pauvreté, des familles importantes. Voilà, ça c'est quelque chose qui a énormément changé. Qui change évidemment la configuration du quartier. La deuxième inquiétude, c'est les enfants déscolarisés, de plus en plus. Ce matin, je viens d'en voir des 12-13 ans qui travaillent sur le marché de la Paillade et qui étaient ravis d'avoir gagné 30 euros. Et je crois que l'État, hein, à travers l'éducation nationale, ne prend vraiment pas la mesure de tous ces enfants qui sont déscolarisés. Ça, c'est quelque chose de nouveau depuis 5-6 ans. Donc la déscolarisation, effectivement l'effet ghetto sur l'habitat, il n'y a plus de mixité sociale et culturelle, c'est important. Et puis, une dégradation, même s'il y a une vraie volonté de la mairie d'essayer d'entretenir le quartier, il y a quand même une dégradation du quartier. Et là, on est de plus en plus sur de l'accompagnement social, et on n'est absolument pas formé, déjà, et on ne le souhaite pas, hein, c'est pas notre travail, on n'est pas là pour ça. Et de plus en plus, un retrait au niveau des financements, tout simplement, même de la politique de la ville. Fragilité aussi au niveau de l'implication des salariés. Ils sont impliqués, ils sont là depuis très longtemps. C'est vraiment une volonté d'être sur ce quartier-là. Mais il y a une insécurité physique. Il y a des salariés qui sont agressés verbalement, physiquement. Et on n'a pas, nous, en tant que salariés professionnels ou en tant que militants, être agressés effectivement dans notre quotidien et avoir des conditions de travail. Vous le voyez bien aujourd'hui, il fait froid et on n'a pas les moyens effectivement de chauffer dans les locaux qui appartiennent à l'office HLM, évidemment, que nous payons. L'évolution du quartier, il y a 15 ans, on travaillait avec toutes les populations, même des jeunes filles, par exemple, issues d'immigration. Là, maintenant, on ne les voit plus du tout. C'est dire que non seulement il y a de plus en plus de jeunes filles voilées, et on ne les reçoit plus dans les associations. C'est dire qu'il y a des associations communautaires. C'est-à-dire que la mixité du public, même dans nos associations, sur de la formation, sur de l'accompagnement de projets, sur de la culture, ça va jusqu'à 10 ans, et à partir de 10 ans, c'est fini. C'est-à-dire ça ne se pose plus en termes de « je suis habitant d'un quartier ou d'une ville, quelle que soit mon origine sociale ou culturelle », c'est avant tout « je suis pauvre, je suis issu d'immigration, je suis musulmane, je suis catholique, je suis juive », etc. Et ça se pose beaucoup plus dans cette terme, en termes d'identité plutôt qu'en termes d'habitant dans une société, quelle qu'elle soit, enfin la société montpelliéraine. Et je crois que ça, c'est ça qui est mis en avant de la part des jeunes surtout et de certains adultes, c'est cette dimension qui est mise en avant. Je pense qu'effectivement, on a été trop loin, justement, dans ce cloisonnement, et qu'il va falloir, effectivement, je crois que mettre un grand coup, effectivement, politique, financier, ou une volonté, hein, alors peut-être c'est la nouvelle génération de professionnels, mais je doute. À côté, il y a un centre de loisirs qui vient de se monter, c'est que des gamins issus d'immigration. Voilà, et ça, c'est pas possible, c'est pas tenable. Ça va faire énormément de dégâts dans quelques années, sur la jeunesse. Cette jeunesse-là, parce que voilà, on n'a pas de recul par rapport à ça.
Et vous n'avez pas de contact visuellement trop avec eux non plus, c'est compliqué.
On se dit bonjour, on a de bons contacts, de voisinage, mais on n'arrive absolument pas à travailler ensemble. Absolument pas, malgré le discours. Alors qu'on fait partie d'associations communes, de conseils consultatifs, on n'arrive pas du tout à partager cette interrogation. Pas du tout. Je crois qu'il n'y a pas de volonté. Hein, pour X raisons, et je ne peux pas en dire plus, parce que je ne sais pas pourquoi il y a effectivement un frein à travailler, deux associations qui se côtoient à 100 mètres, on n'arrive absolument pas à travailler ensemble. Voilà, ça c'est vraiment la représentation qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne absolument pas.
L'association est menacée de repli, comment est-ce que réagir et fédérer peut-être autour de vous? Est-ce que vous pouvez déjà? Ou est-ce que vous êtes un peu isolé dans...
Non, on n'est pas isolé parce qu'on a un réseau, effectivement, institutionnel et pailladin. Il y a des associations qui sont là depuis très longtemps. On partage, effectivement, ces préoccupations. Par contre, il y a une impuissance. C'est-à-dire qu'on peut partager un diagnostic, un constat, mais on est impuissant par rapport, ne serait-ce qu'aux politiques publiques. Et je crois qu'il y a un repli, effectivement, des associations. Je ne peux pas parler ça d'un repli, mais c'est-à-dire qu'ils réajustent leurs projets. Soit en fonction de leurs valeurs, c'est ce que nous avons fait nous, avec toutes les difficultés que ça comporte, hein, évidemment, hein. Soit effectivement en acceptant d'être, entre parenthèses, pour certaines, d'être instrumentalisées, c'est-à-dire de répondre à des dispositifs qui sont incohérents, mais c'est la survie de l'association. Donc je crois que le dilemme de l'association, c'est jusqu'où on va effectivement dans le compromis par rapport aux valeurs de l'association.
Il y a beaucoup de pertes d'identité des associations sur le quartier.
De plus en plus.
Ce qui ne tire c'est pas le réalité. Quartier vers le haut, en tous les
pas
cas.
Du tout. Et on a perdu le discours politique. C'est-à-dire qu'on s'interdit d'avoir un discours politique, au sens noble du terme, hein, évidemment, on s'interdit d'avoir un discours politique devant la scène. On a peur, effectivement. Bon, c'est Montpellier et le Languedoc-Roussillon est assez particulier, enfin, comme dans quelques régions en France, mais c'est très, très politisé. Et c'est vrai que quand on a un discours politique, le lendemain, il y a souvent une sanction financière.
Et au niveau des habitants du quartier, cette parole... Cette parole politique, elle existe.
Elle n'existe plus. Elle n'existe plus telle que je peux l'entendre, c'est-à-dire en tant qu'habitant. Elle commence à exister par des groupes, effectivement, d'adultes ou de jeunes adultes, hommes, la même, voilà, qui effectivement, comme il n'y a pas de réponse institutionnelle à leur mal-être, créer des associations effectivement communautaires. Moi, je le dis, hein, tout simplement, créer des associations communautaires. Mais en termes de lobbying politique, alors je pense que sur le fond, c'est vrai qu'il y a une vraie crise d'identité pour ces personnes-là. Pour d'autres, c'est une plateforme politique, tout simplement, hein, de revalorisation de la personne, un tremplin politique pour obtenir soit un boulot, soit un poste dans une collectivité, soit un mandat électoral qui fasse pression. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas légitime de contester, hein, mais après, il faut savoir ce qu'on en fait, et la manipulation, elle est là. Ça, c'est clair. Hein.
C'est surtout très dangereux pour les habitants qui, finalement, se sentent un peu trahis aussi, quelque part. Ouais.
Alors, ils se sentent trahis, mais ils sont manipulés, du coup. Je crois que qui se sentent trahis, le sont, je pense. Il y avait effectivement des effets d'annonce. Ils n'ont pas réussi pour X raisons, mais ils n'ont pas su l'expliquer. Je crois qu'il y a un manque de transparence de ce qui se passe réellement. Sur le quartier. Il y a une mauvaise information et je crois qu'elle n'est absolument pas comprise, cette information, de ce qui se passe. Il y a un repli, il y a des représentations, il y a des rumeurs et c'est très néfaste. Il y en a qui les récupèrent effectivement et là, c'est la manipulation complètement. Et du coup, nous, notre difficulté qu'on a en tant que mouvement d'éducation populaire professionnelle, C'est jusqu'où on va sur le champ politique. Il faudrait réfléchir effectivement peut-être à côté de l'association IPEC Peuple et Culture à intervenir différemment sur le champ politique.
Je ne suis pas un leader politique ou quoi que ce soit. Je suis juste quelqu'un qui dit ce qu'il a à dire, ce qu'il pense et il s'en fout des conséquences. Déjà, on ne fait pas de la politique. Nous, on fait acteur de rue.
Rabhi.
Tous les jours. On n'est pas vraiment structuré parce que quand on tombe dans une structure, après, on tombe dépendant du système politique.
Alors toi, t'es à la fois, tu travailles un peu en solitaire hein, sur le quartier, tu connais beaucoup de gens du quartier, je te vois beaucoup t'agiter à droite, à gauche, tu présides un club de boxe aussi, c'est ça ?
C'est hein ça, voilà.
Et en même temps, tu ne te définis pas foncièrement que comme un solitaire.
Non, pas du tout, je suis loin d'être solitaire. Moi, c'est la demande des gens, des groupes qui sont déjà sur le terrain, qui travaillaient.
Mais sur quoi ? Sur plein de sujets très différents.
Logement, travail, l'injustice, on essaye de mettre... En contact les gens, quoi. Moi, j'essaie de trouver une solution, les aider un peu comme ça, bouche à oreille, en parlant. On est plus efficace que beaucoup d'élus déjà, c'est sûr. Nous, avec nos moyens, on essaie d'apporter au concret et on y arrive. Si ce n'est que le quart de ce que les politiques ont ici, il faudrait des merveilles. Parce qu'on voit avec tout ce qu'ils ont, le gâchis qu'ils font, c'est un peu une ville de mégalos. Ils sont forts pour faire des statues, des ci, des ça, des grands parcs, l'aquarium, nouveau stade, des stades de rugby, ceci, cela. Mais après, pour dans le concret, non, c'est une ville qui accueille. Je ne sais pas combien de gens, ils sont tous logés et ceux qui sont ici sont mal logés. C'est une ville très accueillante, mais au détriment des gens qui sont ici. C'est bien d'accueillir des gens, mais il faut penser aux gens qui sont ici aussi.
Tu navigues un peu dans tous les milieux, quoi. Moi, c'est ce que j'ai un peu observé.
Ouais,
quoi, c'est
voilà. Des fois, il y a des solutions qui se règlent assez vite. Seulement, les gens ne se connaissent pas. Les jeunes, quand il y a une histoire, il y a des juristes, des avocats, on peut les orienter comme ça. Il y a des gens qui ne se connaissent pas et qui ne s'aiment pas. En les présentant, en les recommandant, ça va un peu mieux. Par rapport à mon travail, je côtoie des personnes un peu influentes.
Voilà, tu travailles à l'Institut médico-légal, c'est ça ?
C'est ça, ouais. Moi, j'aime bien rencontrer le plus de monde possible, être un acteur. Après, des fois, on est là, on va dans des bureaux, ils leur mentent. Nous, on essaye de connaître nos droits et d'y aller, leur
Quand
dire
tu
non.
Dis nous, c'est qui ?
Ça veut dire nous, tous les jeunes qui se battent. Tous les gens qui se battent dans la rue. On a beaucoup qui se battent.
Mais tu ne crois pas, toi, à la structure politique, par exemple, t'engager politiquement ?
J'étais engagé un petit moment, j'étais un peu rêveur, malgré que je rêve que quand je dors. C'était au Parti Socialiste, je me suis dit, socialiste, tatati, tatata, ils sont là pour le social. Mais j'ai vu qu'en fin de compte, c'est une gauche caviar, ils s'en foutent, ils sont là pour se distribuer les richesses.
Tu m'as dit l'autre fois, pardon, c'était pour aussi changer les choses de l'intérieur. Hein
Mais c'est très dur, c'est pratiquement impossible. Mais de les emmerder, de les embêter et de leur dire faites ci, faites ça, c'est possible, on arrivera à arracher quelques trucs. Mais changer, même eux, ils sont pourris entre eux, ils n'arrivent même pas à être d'accord entre eux. Comment vous voulez que les gens d'extérieur soient d'accord avec eux ?
Et ton combat, c'est un peu du cas par cas, presque, finalement, non ?
Mais on est réduit à faire ça, que du cas par cas. Moi, je pense que ça va changer. Les gens, ils vont se réveiller, ils vont arrêter de se faire baratiner, ils bougeront, et après, si vraiment... En fin de compte, c'est une révolution. Une bonne révolution du peuple. Parce que la solution, ça ne viendra pas des associations, l'air de rien. Tous, ils sont structurés, ils ont un truc à rouler, ils sont tombés un peu dans le panneau. Après, il y a ceux qui, sincèrement, ont peur de perdre les choses pour les jeunes. Donc, ils font des concessions.
Par exemple, toi, pour ton club de boxe, tu fonctionnes comment ? Alors, sans subvention ?
Non, des partenaires, des sponsors, des entreprises et tout. Voilà. La ville, elle nous prête les locaux. Quoique, ils voudraient qu'on leur paye un loyer. Mais on est rentré et on n'a plus payé le loyer. Voilà.
C'est un choix de pas demander d'argent ?
Non. On fait des demandes normalement, comme tout le monde a droit. Et après, ils ne donnent rien. Ils ne donnent rien, on ne va pas les pleurer. On fait avec.
Et si vous donnez alors ?
On les emmerderait tout le temps. C'est un dû, c'est un droit. C'est pas eux. Si on ne demande pas, ils ne donnent pas de leur poche. Hein. Moi, je paye mes impôts, je travaille depuis que j'ai 16 ans, j'ai 32 ans. Voilà, je paye des impôts, tout le monde paye des impôts, voilà, c'est pas leur argent. Et on va dire, nous, on a des idées à vendre, hein, pour notre âme. On a des projets, même sur des projets qui nous tiennent à cœur. Nous, on avait décidé de faire des kiosques. Des kiosques qui sont qu'en Angleterre, c'est en Hollande qu'on s'est inspiré.
Des kiosques de ?
Des kiosques à café, qui marchent très bien. À chaque arrêt de tram, il y a des grandes stations où il y a beaucoup de gens qui patientent, avec les grèves, ou par exemple, ou tout. Et ben, faire un système de café, c'est industrie rapide, ça marche très bien. Et en France, ça n'existe pas. En plus, ça pourrait être novateur. Mais quand ils ont vu le dossier, on leur a déposé. Ils ont ouvert les yeux, ils ont dit waouh, quel projet, ben, on n'a plus entendu parler. Ça, c'est un projet qu'on ne va pas tarder à trouver chez eux. C'est comme ça. Alors, pourquoi ils ne veulent pas nous aider, le faire? Nous, en plus, on a trouvé le financement, les gens, on a tout. On veut juste les autorisations de la ville.
Tu penses à un moment donné être, on va dire, récupéré, entre guillemets, politiquement, dans la mesure où tu as une voix qui peut porter?
Récupéré. Après, moi, je ne crois plus à l'institution, je crois à l'homme, à l'être humain. Le problème, c'est...
Parce qu'il y a des gens du quartier qui ont été élus.
Ouais, ils ont été élus pour eux, pour leur propre famille, pour leur entourage. Et moi, à leur place, je quitterais ces fonctions parce qu'ils ne me donnent pas les moyens. Ils me donnent juste la possibilité de me faire haïr du quartier où j'ai été élu. On va dire, ils essayent de faire des choses. Mais c'est bon, ils sont tombés dans le moule aussi, de promettre. Il y en a vraiment qui veulent changer des choses. Mais ils ne sont pas au pouvoir.
Comme tu disais dans Midi Libre, tu vas la déchirer ou pas ta carte du Parti Socialiste alors ?
Ouais, je l'ai perdue. Tant mieux, je n'aurais pas la déchirer. Non, mais je l'ai perdue, c'est bon. Je n'irai pas la chercher, hein. C'est clair. Hein.
Moi, je trouve que la façon comment nos parents, alors que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile qu'à ce jour, dans les années 70, dans les années 80, ils sont venus tout seuls, ils ont brossé, ils ont fait venir leur famille des pays du Maghreb, etc. Et tout ça avec une dignité hors du commun, une dignité, une tête haute.
Khalid, habitant de la Payade, militant du MIB et du Forum social des quartiers populaires.
Aujourd'hui, c'est un peu mon regret par rapport aux générations plus jeunes. Ils sont prêts à tout accepter pour des miettes, pour des cacahuètes, des miettes, c'est-à-dire c'est pour avoir une existence, un boulot, etc. C'est une réalité que je conçois, mais c'est pas eux à qui je renvoie la faute, c'est au pouvoir public, c'est-à-dire les pouvoirs publics. Il fonctionne comme ça, à titre électoraliste, quand les échéances arrivent, on n'y échappe pas. Ben on joue sur les communautés, on joue sur les individus, on joue sur les associations. C'est-à-dire, voilà, ils divisent et de temps en temps, ils sèment des petites miettes, des petites graines, là, soit un boulot par-ci par-là, soit un appartement par-là. Et c'est devenu une façon de penser. Dans les quartiers, il y a une conscience qui est militante, mais qui est au service plutôt des pouvoirs publics, des politiques. Que des habitants, et il y a des gens qui, pour avoir un logement décent, digne, ou pour avoir un boulot correct, ils sont obligés d'entrer dans ce jeu électoral. Nous on dit non, nous on dit c'est pas une obligation, t'es pas obligé d'accepter ça.
La perte du rapport de force,
tout à fait,
l'esprit
tout à fait, voilà. Après,
collectif.
Après voilà, chacun il a à choisir son camp. Moi je fais partie d'une expression autonome dans les quartiers. Moi, j'aimerais que mes enfants n'aient pas à subir ce que mes parents, moi, ont subi ou ce que moi, j'ai subi. Et c'est un travail qui est à mener à très long terme. Et
on a l'impression, alors, que les partis politiques traditionnels sont un peu perdus.
On ne parle pas le même langage. Les partis dits de gauche ou de gauche de la gauche, ils ont fait comme analyse qu'ils ne peuvent pas faire sans les quartiers populaires et sans les habitants issus de l'immigration des quartiers populaires. C'est une analyse qui est réelle. Bon, c'est un peu tard d'avoir eu cette approche, mais bon, comme on dit, rien n'est trop tard. Mais là où on a des fortes divergences, c'est sur les priorités. Tous ces partis politiques, là, ils sont sur de l'anticapitalisme, etc., etc. Bon, parler à n'importe quel jeune qui tient les murs ou qui a besoin de savoir comment régler ses fins de mois d'anticapitalisme, vous aurez la réponse. Ils savent pas ce que c'est. Nous, on n'a pas le même sens des priorités. Sinon, après, sur certaines luttes, sur certains rapports, on a été amenés à bosser ensemble et on se respecte sur certains trucs. Après, nos divergences, c'est sur les priorités. Voilà, la priorité, c'est sur de l'altermondialisme, etc. Nous, pour nous, c'est à la limite, c'est du luxe de parler de tout ça. C'est-à-dire, on a tellement de problèmes à régler pour améliorer les choses qu'on va pas griller les étapes pour arriver à parler d'anticapitalisme et compagnie. C'est bien beau. Il y a plein de questions urgentes à régler, notamment les questions qui reviennent le plus fréquemment, c'est le logement, c'est l'emploi des jeunes, c'est l'échec scolaire, c'est-à-dire de plus en plus de jeunes qui sont hors cadre scolaire et ça ne cesse d'augmenter, ça va être vraiment pour nous un enjeu considérable.
station à de la Payade. Destination Rousseau.
T'avais du retard quand t'étais au collège ?
Ouais, j'avais du retard, ouais. J'avais 17 ans.
Abdel.
J'étais en 3ème, j'avais 17 ans.
Parce que quand tu es arrivé du Maroc en France, on t'a mis dans quelle classe ? À quel temps ?
J'étais pas en 3ème au collège. J'étais dans un 3ème...
spécialisé.
Ouais, spécialisé. Après, je suis parti aux écoliers, là.
Donc, t'es une sorte de remise à niveau pour que tu puisses...
Voilà, exactement.
Et t'as pas réussi à rattraper le...
Non.
Le retard ?
Non, malheureusement.
Et tu connais beaucoup de jeunes qui étaient comme toi dans...
Ah ouais, on a plein. Il n'y en a pas qu'un ou deux ou trois. Il y en a vraiment plein.
Parce que le niveau n'était pas le même entre le Maroc et la France.
Exact.
Et tu vivais où au Maroc ?
Là-bas ? En Adour. Je sais pas si vous connaissez. Voilà.
Et autrement, si tu étais resté là-bas, tu penses que ça serait passé comment par rapport à ta scolarité et ton avenir ?
J'y pense même pas.
Pourquoi ?
Parce que je pense pas, c'est tout.
Donc aujourd'hui, tu as quel âge ?
J'ai 24 ans aujourd'hui.
24 ans,
ouais. Ouais.
Qu'est-ce que tu fais ?
Je travaille avec mon père dans le bâtiment et tout ça. Et maintenant, j'ai choisi de faire une formation dans le cariste.
Tu crois que tu vas arriver à trouver du travail ?
Ouais, ouais, exact. Ouais. Mais il faut chercher pour trouver, donc.
Et tu cherches ?
Ouais.
Toi, tu es venu jeune à 10 ans, c'est ça ?
À 10 ans, ouais.
Tu crois que ça t'a aidé de venir plus jeune ?
Ah oui, ça c'est clair, bien sûr.
Ouais. Mohamed.
Déjà, j'ai eu la chance de... J'ai commencé en CM2. J'ai eu du mal la première année un peu à m'adapter à parler français, tout ça.
Parce qu'à 10 ans, tu étais dans les classes d'élèves de ton niveau. Tu n'étais pas dans une classe spéciale.
Par rapport au niveau maths, physique, j'avais de l'avance. Des trucs qu'ils faisaient en CM2, moi je les avais fait un an ou deux ans avant au Maroc. Le français c'était plus compliqué. Mais ça m'a pris voire deux ans.
Et tu as réussi à.
Ouais, j'ai réussi
à retrouver.
Ouais, à retrouver le niveau, ouais. Mais ça se fait avec le travail, sinon on ne peut pas y arriver comme ça. Ouais. J'ai dû travailler. Je fréquentais pas trop la paillade jeune d'ici. Donc j'ai réussi un peu à.
Pourquoi c'est distrait trop ?
Non, c'est pas ça, parce que ici on parle pas couramment le français. C'est un français quartier, quoi. C'est ou même plus on parle plus une langue étrangère, on parle soit l'arabe ou bien ça passe pas, quoi.
Sibor, 34 malfrats.
C'est Y-P-O-R-G.
Voilà, c'est ça.
C'est Y-P-O-R-G.
Fais du pantin, c'est du pantin, du pantin, du pantin, fais du pantin, bon sang. Nous on marche pas pour le montant, le bon sang. 5 fois par jour il s'entend. Avec la sensible, il s'entend bien. Culture du respect pour mes Bouba et Pimpin. J'tire ma révérence à bas. Mes rêves d'enfant, je ne suis pas une référence. Tu veux décrypter le cri des femmes pour des blocs ou le crime. À 100% organisé, pas besoin de baliser. C'est mon dernier texte, ma valise est vide. J'ai tout gardé en tête, que dire de mon armoire. Je mise tout sur mon armure. De l'influence de frères qui sont mûrs. Comment t'interprètes mes textes? 6 sur un humain après vous lui ôter sa veste. Ça me donne un mal-être. C'est pas ma sable, ma coupe ni ma dégaine. Mais ce que le mal rejette, y'a mon influence. Une phrase mal comprise que tu fais et reversée sur ma balance. Sans force à arrêter, voulant devenir un illettré. Mais il est très déterminé. Je suis dans le mouvement, je suis pas dans le groupe, les gros événements. Je suis pas le groupe si je suis pas la dernière allemande. Je mets pas à l'amende, force et vivre à la bien loin des.
Mohamed Ben Saïd, alias Cyborg, alias 34 Malfrats, rappeur Payadin.
Je suis resté longtemps en famille d'accueil, presque 13 ans. Ouais, 12-13 ans en famille d'accueil, je suis sorti de la famille d'accueil. J'étais très fort à l'école. Bon, on sait que le quartier attire beaucoup les jeunes pour les bêtises et tout ça. Donc je suis parti dans cette filière-là, les bêtises. La prison, très très jeune à 16 ans. Je suis resté 12 mois en prison à Toulouse, on m'a éloigné de chez moi, tout ça. Je suis sorti de prison, j'avais rien compris encore, je suis rentré à 17 ans, je suis ressorti à 18 ans, et à ma majorité, là, j'ai commencé à réfléchir en comptant de mes 4 ans à 18 ans, j'ai rien fait. Mon enfance, je m'en sers comme, comment dirait, un moteur. C'est mon moteur, c'est, voilà, j'oublie pas par où je suis passé. Je sais que beaucoup de personnes en sont sorties fous, folles, ou à la Colombière, ou enfermées, parce que voilà, ils n'ont pas supporté les journées de prison, les journées de mitard, et la discrimination raciale. Et quand on vit dans une grosse villa avec que des gens aisés, que nous on est un petit gamin qui vient de la Payade et qui est à l'ADA, on la ressent aussi dans la rue quand on n'a pas les bons rollers aux pieds. Non, j'oublie pas, c'est un moteur. Bon, après, je suis tombé sur le hip-hop. Ça, c'est ma plus belle rencontre, on dira. C'est le hip-hop qui m'a sorti de la rue, c'est grâce à lui que je travaille, c'est grâce à lui que je fais des connaissances avec les gens de la mairie et de la maison pour tous. Que voilà, qu'aujourd'hui j'accepte de parler en radio parce que je l'aurais jamais fait. Parce que voilà, vous savez bien que deux journalistes dans un quartier, c'est que beaucoup de monde vous voit, peuvent penser à autre chose. Mais après, le hip-hop, c'est un miroir qu'on met en face de soi. Quoi. On met un miroir et les problèmes, on les tape et ils reflètent et ils reviennent. Et c'est à ce moment-là qu'on voit qu'il y a des problèmes. Si j'aurais pas mis le hip-hop en face de moi, j'aurais jamais su que j'avais des problèmes, vraiment. Parce que c'est normal dans un quartier de. Ça devient banal de. Voilà, un petit va commencer par voler un poste et c'est devenu banal. Et maintenant, s'il n'y a pas des grands frères comme nous qui crachent au micro la bonne route, que je sais pas si le comprendront. C'est pour ça que voilà quoi, le hip-hop, c'est très important dans les banlieues. Il ne faut pas le renier. Mes premières paroles, ça a commencé par c'est le rap de bâtard, pas le rap de kefar. J'attire pas les cafards. Du haut du pont, je suis le phare. On se couche tard, fuyant vos gyrophares. On dort plus, la parano est apparue. J'aurais cru la justice allait m'épargner. À 16 piges, j'ai plongé 12 mois à faire mon apnée. Dur de rester bloqué dans une cellule oubliée. Au passage, j'en place une pour tous mes frères enfermés. Ces insultes, j'ai pris conscience déjà quand je me suis retrouvé à faire des petits concerts pour les maisons pour tous, qu'il y a plein de petits gamins qui entendent « Nique ta mère » ou qu'ils entendent ça, déjà, c'est un gros souci. Même en concert, on évite de le dire. Donc, pour pas le dire, il faut éviter de l'écrire. Déjà, et ça sera une grande avancée. Ne serait-ce que par les rencontres que j'ai fait avec le hip-hop. Je connais des Gabonais, des Martiniquais, des Espagnols, des mecs qui chantent du reggae. Comme je dis dans une de mes chansons, il y a tout un peuple qui vit en bas, plusieurs générations et leur culture qui se côtoient. Et si on ne fait pas avec, c'est des guerres des gangs, on n'est pas aux États-Unis ici. Ils ont beau, nos quartiers, c'est violent, ils sont vulgaires, mais autant on mange un maélé, autant on mange une paella, autant on mange un couscous avec les voisins qu'on a autour. J'ai mon manager, il s'appelle Benoît. C'est un Français pur souche et c'est mon manager et je l'aime comme mon frère, c'est comme quelqu'un de mon quartier. J'ai mon ami Sébastien, c'est un Martiniquais, j'ai Fernand, c'est un Gitan, et pourtant je les considère, ils sont tous au même niveau autant l'un que l'autre. On n'est pas là pour faire de la discrimination. Ouais, y a un Français au milieu du 10 arabes, ça va être plus la tête de Turc. Pourtant moi j'ai vécu en nourrice chez des Français pendant, je suis resté presque 13 ans comme je vous ai dit, j'étais la tête de Turc. Quand il y avait des invités, c'est moi qui dormais par terre, j'avais le droit à chaque fois. Nous, non. Nous, voilà, on prend quelqu'un, on l'accueille, il est chez lui comme chez nous. Mine de rien, Montpellier, je parle en général, hein, Montpellier, La Paillette, c'est une ville bien. Hein. J'étais à Paris, j'étais au 4000 à la Courneuve, c'est rien à voir. C'est la délinquance, elle n'est même pas au-dessus, c'est plus de la délinquance, c'est du crime organisé. C'est pour ça que je vous dis que ici encore, quand un petit aller, il va aller voler un poste, son père, il va le remettre sur le bon chemin, il va pas croire qu'ici les jeunes ne veulent pas travailler. J'en connais pas beaucoup, moi, qui sont là la nuit à brûler des voitures. C'est n'importe quoi.
Et toi, alors, professionnellement, comment est-ce que tu as réussi à rebondir?
Je me suis marié en juin, moi, il n'y a pas trop longtemps. Avec ma femme, on a acheté un camion pizza. Parce que, voilà, j'ai pour but quand même d'être mon propre patron, pour pouvoir faire ma musique à côté sans avoir des horaires, sans être à la merci d'un patron qui, voilà, du jour au lendemain, il va me renvoyer. Donc, j'ai acheté un petit camion, pas trop cher, et j'espère pouvoir...
Tu vas t'installer où?
Mais j'attends les autorisations, j'aimerais bien faire les marchés de la Payade, faire les matchs de foot, mais on est sur liste d'attente. Ça fait 25 ans que j'habite ce quartier, et ouais. Au moment où on veut s'en sortir, ouvrir un petit camion de pizza, on a encore des bords d'année.
Toi, ton but, c'est quand même de continuer à faire du rap.
Ouais, moi, c'est ma musique. Quoi. Je suis malade de la musique, je suis un grand passionné. Ouais. C'est ma thérapie, comment dire.
C'est la crise, si t'as pas l'art de la maîtrise. La malchance, on la côtoie. Tête sur le comptoir, ça va pas. Serre moins whisky coca. Les temps sont durs, Odeur d'ordure, on passe de l'or au fer, l'État resserre la ceinture. Comprends que chature, trop longtemps que ça dure, on marche en reculant, en entrant dans le futur. Tous tournés vers l'horoscope, je suis moi le meilleur écope, de malchance comme le frère Cop. On n'est pas vénard, on tient le cap sans gouvernail, tout ça couvert, on se taille pour de la maille. Les intellects taillent, les intérêts foncés. La guerre dans nos ruelles, man, mat, l'ambiance, elle est bizarre. Dans le blizzard, y a que des mecs bizarres. C'est la misère pour s'en sortir. Paya, t'inquiète, on fait le nécessaire.
Et les changements, alors, tu dis depuis ce temps hein?
Les changements, ben, la religion a fait beaucoup quand même. Ouais. Vu qu'on est croyant quand même dans les cités, il y a...
L'islam, tu peux m'en parler? Quel est ton rapport à la religion?
Moi, je sors d'une famille très musulmane. Il faut savoir que nous, on n'est pas des gens de Al-Qaïda, on n'est pas des Oussama Ben Laden, on n'adhère pas à tout ça. Autant Ben Laden que Bush, hein, parce que... Après, tout ce qu'ils disent à la télé, bon, c'est leur problème, ça, vu que faut faire un buzz. Il faut qu'il y en a qui vendent leurs armes, il faut que Sarkozy vende ses avions. Il faut que tout le monde s'y retrouve. Et à la fin, ils te disent, voilà, la guerre, l'islam. Et quand j'entends parler à chaque fois les islamiques, ils disent Al-Qaïda, encore ça passe. Mais à chaque fois, les islamistes, c'est du bourrage de crâne. Un gamin qui va regarder la télé, il a 6 ans, il va entendre des islamistes jusqu'à ses 20 ans. Ben, ils sont mauvais, les islamistes. C'est comme on dit Dieu et le diable.
Qui fâche? Réalité anonyme, 34 malfrats. On va pas changer le monde, mais ce qu'on pourra faire, on le fera.
Ce que j'ai vécu, je le regrette pas quand même. Parce que comme je dis, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Parce que chaque chose a sa conséquence. C'est malheureux à dire, mais c'est vrai.
Eh, y a trop d'excès dans tout ce que je vois. Les valeurs partent à la dérive et ça devient dur de faire le bon choix. Le juste milieu n'a plus sa place ici. Tout le monde veut commander et se croit à Washington DC. Mais on oublie que le monde est éphémère et on oublie qu'un jour on se retrouvera peut-être sous la terre. Alors certains vont brûler leur corps, croyant qu'en faisant ça, ils éviteront les affres de la mort. Y a trop d'excès dans nos mentalités. Comment donner envie si on agit avec brutalité? La sagesse nous fait souvent défaut. Ça part d'une bonne intention, mais à la fin, le résultat est faux. Les traditions ont pris le dessus. Et si tu ne les suis pas, tu verras tes parents déçus. Mais on préfère de se voir le très haut. Pour moi, c'est plus le cas. Et j'ai plus honte de le crier haut. Y'a trop d'excès, mais c'est plus léger. On n'est plus en 1400 et quelques. Faudrait peut-être réagir. On peut s'adapter sans s'assimiler. Je prendrai que le bien et j'en ferai un facsimilé. Y'a trop d'excès, mais t'es pas obligé de suivre le courant. Quand tu sais pas où il va se diriger, je suis pas obligé de suivre le Coran. Mais j'essaye.
Voilà, y a quelque chose de super qui se passe, hein. Il y a un groupe qui démarre là, c'est que le début, hein, qui nous donne un grand espoir. C'est pour que justement on se prenne tous en main à la paillade pour transformer la réalité. Et un thème qui est toujours à l'arrière, c'est la lutte contre l'exclusion dont on souffre tous.
Marie-Lise, une des anciennes habitantes de la paillade, militante sans frontières.
Moi j'ai une histoire où j'ai envie d'être avec des gens différents, voilà, par mon histoire. Pour moi, l'histoire de France, entre guillemets, que j'ai vécue, c'est-à-dire depuis 56, là, je suis de 48, hein, 56 où j'étendais la radio, elle est faite d'exclusion. Et moi, ça me faisait souffrir, même petite fille. Et en sixième, quand je suis arrivée, qu'il y avait les pieds noirs qui étaient rejetés, mais qu'il y avait aussi les Arabes qui étaient traités comme des bêtes. Puis moi, j'avais mon père qui soutenait le FLN et j'avais ma copine pieds noirs qui était raciste comme pas deux et que j'adorais. Je vivais l'exclusion avec douleur. Douleur. Et tous ces gens qui ne pensaient pas comme moi, en plus, et qui avaient des points de vue complètement... voilà, vraiment, c'est plus que des points de vue opposés. Je veux dire, c'est un entrechoc, quoi. Il y avait la guerre, là. C'était terrible. Voilà. Et cette exclusion, je l'ai toujours vécue et ressentie jusqu'à maintenant. Donc, ce n'est pas à la toque, j'arrive à la paillade, je sens l'exclusion, quoi. Hein, c'est... Et c'est parce que je ne supportais pas cette exclusion que je suis allée... Voilà comment ça, c'est le moteur.
Et j'aimerais que tu me parles de la plateforme, puisque c'est quand même aussi une des structures, on va dire, qui te permet aujourd'hui justement
de... C'est un pur régal.
De rencontrer des...
C'est vraiment un pur régal, parce que justement, avant la plateforme, je n'avais pas vraiment eu l'occasion de rencontrer... et de discuter et de faire des choses avec des femmes qui avaient le voile. Et donc, il y a eu toute cette campagne depuis des années contre le voile. Bon, encore une exclusion. Moi, spontanément, sans être dans rien du tout, en tant que prof de l'EP, j'étais embêtée, mais j'étais contre cette pédagogie de l'exclusion des jeunes filles, voilà, parce que en tant que pédagogue, je peux pas, c'est pas possible. Je vois bien que ça peut pas marcher, et au contraire, quand on nie l'identité de gens, et ben ils se la raccrochent. Autour de moi, à part dans notre rue, cette dame qui avait mis le rideau complet que je ne pouvais pas rencontrer, à mon grand désespoir, malgré mes tentatives, et ben enfin là, j'étais dans un groupe, maintenant, dans cette plateforme, où il y a vraiment des filles que je trouve super, et le voile, non seulement il ne me gêne pas, mais je ne le vois plus. Quand même, hein, j'ai discuté du sujet, parce que moi je suis quand même d'origine protestante, ou église réformée de France, je suis athée, mais je sors d'une rigueur où tout ce qui est signe, ostentatoire. Et moi, tout de suite, je me suis dit, mais si elles montrent, c'est qu'elles ont besoin de le montrer. C'est une identité. Puis moi, ça fait 30 ans que je vois l'identité des gens qui est niée, vraiment niée. Et d'ailleurs, quand je suis rentrée dans la plateforme, on m'a demandé pourquoi j'étais là. J'ai dit parce que je souffrais de l'exclusion, mais dans l'autre sens. Parce qu'il y a une espèce de diabolisation que j'ai du mal à supporter, moi, parce que... Quand les gens se font remarquer autrement, on n'en fait pas tout ce tintoir.
Et donc la plateforme qui est née cette année, hein, qui était vraiment un phénomène pailladin, c'est pour toi un bol d'oxygène.
Moi, c'est super. C'est un bol d'oxygène et j'espère qu'on va pouvoir faire plein de choses. Parce que là, vraiment, on se rencontre. On a des discussions sans arrêt. C'est formidable. Parce que y a des vieux, c'est mon mari et moi, et viennent encore d'autres. Il y a des tout jeunes, entre 25 et 30 ans. Il y a des gens de différentes origines. Bien sûr, il y a une charte qui est finalement l'application de liberté, égalité, citoyenneté. Et nous, on ajoute solidarité et ça tourne autour de ça. Et surtout, une charte qui stipule qu'on veut être complètement autonome et indépendant de toute récupération clientéliste, quelle qu'elle soit. Tous les gens qui sont dans cette plateforme, et nous y compris, on est ensemble pour aider, c'est-à-dire en collectif, les habitants à avancer sur tous les problèmes. Le logement, c'est le travail, l'éducation, et avec cette exclusion là qui est rampante, mais y a, dans la plateforme, on insiste pour dire qu'il y a des tas d'exclus, hein, de toutes les origines. Hein, c'est l'exclusion économique aussi, beaucoup.
Il y avait besoin à la Payade d'un mouvement comme celui-là, où on sent que, à l'image aussi du pays, il y a une forte dépolitisation aussi.
C'est ça qui nous enthousiasme aussi, c'est parce qu'on voit des jeunes qui sont avides de se politiser, mais au sens noble du terme, au sens du civisme. Ces jeunes, c'est notre espoir.
Parce que la plateforme citoyenne, là, elle est vraiment naissante.
Mais et voilà, elle est naissante.
Tu penses que ça peut se développer ?
Dans la Payade, on est au cœur des contradictions de la société. Un quartier populaire, c'est vraiment le cœur des contradictions, d'un point de vue écologique, d'un point de vue économique, d'un point de vue humain. Et donc tout ça, ça va être difficile. Mais on pense que c'est possible de transformer. Et de transformer comment ? En prenant les choses à la base et avec les gens eux-mêmes. C'est pas la plateforme qui changera grand-chose. C'est pas la plateforme toute seule. C'est sa capacité déjà à travailler collectivement. Et sa capacité à justement faire que les gens se rencontrent au-delà de leurs différences. Alors là, je parle en tant que militante. Hein, quand on voit d'ailleurs, je parle en tant que militante tout le temps. Mais quand on voit la division de la gauche, alors c'est pour ça qu'on se donne des règles de conduite. Et pour le moment, on les tient. Quand on a envie de connaître quelqu'un, ça devient chaleureux. Je veux dire, c'est voilà. Et tous les gens qui sont dans ce groupe ont envie de connaître. Parce qu'on ne se connaissait pas au départ. Hein. Et c'est passionnant. Et j'espère que on ne va pas aller trop vite. Il y a plein de dangers qui guettent.
C'était Sur les docks, à la Payade. Quatrième et dernière émission, En toute conscience. Avec Ahmed, Toufik, Mohamed, Evelyne Menou, Morad, Khalid, Mohamed Ben Zaïd, alias 34 Malfrats, Marie-Lise et Rabi. Prise de son, Patrice Klein et Francis Pascal. Mixage, Marie-Thérèse Ferrand. À attachée de production, Laure-Hélène Plancher et Christine Gage. Une série documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisée par Christine Diger. Merci à tous les habitants de la Paillade. Un merci particulièrement chaleureux à Marie-Lise et Jean, Mathieu, qui m'ont hébergé durant ces deux mois à la Paillade.
Gitans, Marocains, Français ou sans papier, mais tous Montpelliérains, pour quitter la Paillade, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster Place de la Comédie ou nous réécouter à la mer, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook, à la page France Culture Documentaire, et nous suivre sur Twitter, LSD Séridoc. Et la semaine prochaine, eh bien la semaine prochaine, nous irons au chevet des philosophes qui ont été emprisonnés. Comment penser quand on est enfermé ?